Oui, je suis professeur, je suis une fidèle auditrice de France Inter depuis de longues années. Mon premier geste est toujours d'allumer la radio en rentrant, mais je pense que je vais cesser d'écouter cette radio. D'abord, Monsieur Mermet, dont j'aime beaucoup pourtant les émissions, est vraiment trop sectaire et trop d'extrême gauche. Il pourrait avoir le droit de réserve comme nous, les fonctionnaires. Et même ce matin, Monsieur Guy Carlier a eu une chronique absolument inadmissible. Il est de gauche, il admet les émeutes dans les rues. Eh bien, franchement, c'est pas comme ça qu'on va retrouver dans nos classes le travail, l'autorité et le respect dont on aimerait recevoir de nos élèves. Voilà, j'espère que je pourrai réécouter France Inter un jour.
Je vous appelle aujourd'hui parce que c'est le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et je viens d'un continent, je viens d'un pays, c'est l'Afrique, mon pays. Et aujourd'hui, l'Afrique n'est plus mon pays, c'est le monde, c'est la terre entière qui est devenue mon pays. Il y a beaucoup d'hommes qui ont contribué à mon éducation, des gens qui n'avaient plus de pays, des gens qui ont lutté contre toutes les injustices sur la terre. Parce que c'est grâce à toi que j'ai connu, que j'ai découvert des hommes extraordinaires comme Howard Zinn, Cornelius Castoriadis. Je n'ai plus de pays parce que mon pays est devenu l'univers, mon pays est devenu toute la terre. Là-bas, si je suis, doit continuer et doit toujours continuer. Et je vous remercie beaucoup. Je suis très ému, c'est pourquoi je ne peux pas en dire encore plus. Don't give up the fight. Ciao. Le combat continue.
Oui, bah écoutez, moi je suis ravie d'avoir voté Nicolas Sarkozy, mais je dois vous rappeler que dans un autre temps, M. Mitterrand avait hébergé sa famille morganatique aux frais de la du contribuable et qu'il avait passé ses dernières vacances pharaoniques dans un palace en Égypte, toujours avec sa famille morganatique, et cela aux frais du contribuable. Lui n'a pas de résidence secondaire à Mougins, lui.
J'ai entendu hier un auditeur qui disait qu'on diabolisait Nicolas Sarkozy parce qu'on l'avait pas encore vu à l'action, mais il me semble quand même que ce monsieur fait partie du gouvernement précédent. Et pour les gens qui sont intéressés, il y a un petit état des lieux qui a été dressé par la Ligue des droits de l'homme, qui s'appelle le bilan d'une législature sécuritaire. Alors je peux pas tout vous lire parce que ça prend deux pages écrites très petites, mais par exemple, on peut y lire qu'il y a l'extension des fichiers automatisés pour les auteurs d'infractions sexuelles, la surveillance électronique, etc., etc., des pressions policières, des diminutions des garanties, modification de la justice des mineurs en particulier, etc., etc. Il me semble que nous avons déjà vu à l'œuvre M. Sarkozy.
Et bonjour, je téléphonais pour prévenir d'un rassemblement de citoyennes et de citoyens au Savoyard, soutenu par trois figures de la résistance en Haute-Savoie, dimanche 13 mai, et on lance un appel pour faire un pique-nique citoyen sur le plateau des Glières, pour signifier que le plateau des Glières n'appartient pas qu'à M. Sarkozy. Non, M. Sarkozy, les combattants des Glières ne sont pas récupérables, et donc on va essayer de se mobiliser pour le faire savoir. Donc, si vous pouvez laisser faire passer cette information, ça sera avec plaisir que tous les gens qui sont pas trop loin du plateau des Glières puissent venir partager le repas avec nous. Merci, à bientôt.
J'ai été manifestée lundi soir dans la deuxième manifestation qui a commencé vers 22h30. Cette manifestation, contrairement à celle qui a eu lieu vers 20h, était totalement pacifiste. On était 200 et on a été 200 à se faire embarquer alors qu'on manifestait sur le parvis de l'Opéra, je le répète, de manière totalement pacifiste, et que les CRS, face à nous, bloquaient la route. Le lendemain, sur TF1, les deux manifestations de lundi étaient confondues. On a vu que la violence, on était tous des casseurs et la police avait fait son travail. Donc voilà, moi j'appelle ça de la manipulation médiatique. Je rappelle qu'une grosse partie de la population fonde son jugement sur ce qu'elle voit à la télé pour élire son président et que dans la police, le nombre d'interpellations de délinquants est en hausse. Donc voilà, vive la démocratie et vive la France. Au revoir.
C'est le CSA qui vous impose de nouveaux quotas, là ? Non, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un tout petit peu trop de messages pro-Sarkozy aujourd'hui sur le répondeur. Un 10 mai en plus. Parce que ces gens-là, hein, je leur reconnais tout à fait le droit de s'exprimer, mais ils ont beaucoup plus d'endroits pour le faire que nous, les anti-Sarkozy. Leurs voix se sont déjà emparées des urnes, alors nous sommes plusieurs à penser que ça fait bien chier qu'elles se mettent à envahir la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Parce qu'il faut pas déconner, on n'est pas au stade là, enfin pas encore quoi. Le répondeur de là-bas, si j'y suis, c'est pas la boîte vocale où s'affrontent les supporters de l'OM contre ceux du PSG. Parce que toutes les voix de la France, soi-disant silencieuses, qui taxent les gauchistes d'intolérance, elles oublient que la police et la justice expéditive tournent à plein en ce moment. Pendant la croisière du nouveau président, la répression continue. Abel Bouaïta, 6 mois de prison ferme. David Largeau, 4 mois. Martin Billouard, 6 mois. Freddy Porlon, qui a pourtant affirmé être en marge de la manif, 6 mois. Sharaf El Aouf, 5 mois. Hakim Younes, 6 mois. De 4 à 6 mois de prison ferme, rendu dès le 9 mai par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre des manifestants prévenus de violences avec armes par destination et outrage. En clair, j'ai le canette sur les boucliers de CRS, dont on ne fait même plus rimer le nom avec SS comme dans les années 70. Alors, je suis pas un apôtre de la violence, hein, mais j'avoue que je supporte mal que des manifestants anti-Sarkozy prennent 4 à 6 mois de prison ferme, quand les bandits qui nous gouvernent s'en mettent plein les fouilles et gaspillent le pognon de l'État en toute impunité. Alors que même Juppé, qui a fait beaucoup plus grave, y a échappé. Autre chose, dans son réquisitoire contre les manifestants interpellés et prévenus dans la soirée du 6 mai, Isabelle Reynaud, substitut du procureur, a notamment dit, je cite le journal Sud-Ouest, « Dans une démocratie, on a le droit de manifester sa joie ou sa peine quand un candidat est élu, de s'exprimer, d'aller et venir à n'importe quelle heure. Mais la limite de cette liberté est dépassée quand il y a des débordements de violence. » Parfois le fait de personnes qui n'ont pas jugé utile de se déplacer et déposer leur butin dans l'urne qui contient la volonté populaire. De ces événements, nous devons tous avoir collectivement honte. Elle dit ça, collectivement honte. C'est marrant comme nous n'avons pas tous la même perception de la honte. J'ai été frappé, moi, par la mollesse des unes des journaux français au lendemain des élections de Sarkozy. Même le dur de Libération ou le choc de l'humain, j'ai trouvé ça bien mou. J'ai pensé à 2 titres qui auraient traduit ce que je ressentais. La honte ou la France en fin de droit. Vous connaissez l'expression en fin de droit. Je trouve qu'on ne peut pas faire comme si de rien n'était. C'est, il y a beau avoir 53% de votants qui ont choisi Sarkozy, il me semble que l'heure est grave. Voilà.
Bonjour, monsieur Mermé. Beaucoup de choses dans notre société française vous dérangent. Eh bien, vous, vous me dérangez. Lorsqu'une émission est faite sur les logements sociaux en Île-de-France, exemple de ce jour, ou sur quelque sujet que ce soit dans notre pays, le reportage est effectué par un de vos collaborateurs. Reportage sur un événement ou un problème dans une contrée lointaine, monsieur Daniel Mermé est là. Les voyages lointains pour le chef, la proximité pour les collègues. Que faites-vous de vos belles idées de justice sociale?
Eh ben mon vieux, c'est pas facile en ce moment, hein, d'ouvrir la boîte vocale du répondeur. Tantôt c'est des voix nouvelles comme ça, hein, qui et façon de s'exprimer, qui date d'il y a quelques jours, depuis ça doit remonter à dimanche dernier. Ou bien tous ces mauvais perdants, ces mauvais esprits qui ne reconnaissent pas la démocratie, et vous l'avez entendu, qui déversent leur venin dans cette boîte vocale. Non, à part ça, c'est passionnant. On vit une époque assez curieuse quand même et assez bizarre. Aujourd'hui, pas mal de messages dans cette heure que nous allons passer ensemble. On va revenir sur le logement. Vous allez entendre une série de réactions, de messages laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, suite aux 2 reportages d'hier et d'avant-hier d'Olivia Gesbert sur la question du logement, à la fois la crise du logement d'un côté et de l'autre côté, le boom immobilier. Comment ces 2 phénomènes peuvent-ils se produire, cohabiter en même temps, alors que, je le rappelle encore une fois, il y a 3 millions de mal logés en France. Y a-t-il un lien entre ces 3 millions de mal logés en France et La spéculation qui selon un certain nombre de des intervenants que nous avons entendus, que ce soit des acteurs de l'immobilier, des chercheurs ou bien simplement des gens accédant à la propriété, pour pas mal d'entre eux, cette pénurie serait entretenue et entretiendrait la spéculation. On va entendre vos réactions et puis on va aller à la fondation Emmaüs qui a il y a peu de temps publié un rapport sur la question du logement en France, du mal logement en France, face aux récentes déclarations du nouveau président de la République. Et puis, on va s'intéresser aussi aujourd'hui, avec Renaud Lambert, à l'affaire de la promenade de notre nouveau président sur ce yacht. Tout le monde en parle, c'est une grande affaire de cette semaine, et du propriétaire de ce yacht, à savoir Vincent Bolloré, dont le président nouveau nous affirme qu'il n'a aucun lien, aucune relation commerciale avec l'État français, confirmé ensuite par Vincent Bolloré. Alors, vous êtes au courant un peu de ce qui se dit par rapport à ces déclarations. On verra les précisions que nous pouvons et les informations que nous pouvons vous apporter à ce sujet. Mais d'abord, dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, voici comment l'on a réagi aux deux reportages sur la crise du logement.
Caroline, de tout temps, les personnes qui n'avaient pas beaucoup de ressources habitaient à la campagne. Alors je ne vois pas pourquoi des journalistes détracteurs voudraient que l'on loge des gens sans ressources dans des espaces où le terrain est prohibitif. Voilà. D'ailleurs, à la campagne, ils seraient beaucoup mieux parce qu'ils auraient un petit terrain, ils pourraient cultiver, élever leurs poules et ils vivraient plus sagement que l'on vit en ville où la vie est trop chère.
Aujourd'hui, j'ai pris une grande claque, j'ai écouté votre émission et ce matin, je me suis engueulé avec mon copain Max, lequel avait un petit appartement dans le Marais de 40 mètres carrés, enfin moins, dans lequel depuis 10 ans on allait, il nous le passait chaque fois qu'on avait besoin, c'était vachement pratique, on débarquait là-bas. Il l'a acheté il y a 15 ans, l'équivalent de 8000 euros. Il l'a revendu il y a 10 jours, 220 000 euros. Dans la même semaine, il s'est acheté un appartement de 72 mètres carrés dans un autre quartier, qu'il a revendu immédiatement derrière. Et à partir de ça, il est arrivé à 510 000 euros. Je lui ai dit que je trouvais ces méthodes absolument dégueulasses et que le système suisse d'imposition de 10% pour chaque année d'impôt rend les reventes impossibles. Il m'a dit, et toi, crétin? Je lui ai dit, quoi, moi? Il me dit, ta baraque. Je lui ai fait remarquer que j'avais acheté ma maison à un moment donné où le loyer ou le taux d'intérêt était identique, donc je voyais pas le rapport. Il m'a dit, regarde ce qu'elle vaut. J'ai fait deux téléphones et je me suis rendu compte qu'en l'espace de 7 ans, ce que j'avais acheté à l'équivalent de 600 000 balles valait aujourd'hui 2 millions et des poussières. Ça fait mal au sein de se dire qu'on dort dans 2 millions. Ça fait bizarre, et il paraît que c'est comme ça. De toute façon, c'est du virtuel, car si je la revends, je ne pourrais strictement rien acheter du tout. Et je pourrais juste aller dormir sur des ponts en me disant que j'ai un compte en banque super bien rempli. Maintenant, il faut choisir ce qu'on veut. Bonne journée. À très bientôt. C'était Jean-Jacques depuis la Suisse. Ciao.
Salut à tout le monde. Je voulais demander à Daniel où il habite, lui. Est-ce qu'il est propriétaire? Est-ce qu'il voudrait voir un HLM construit devant ses fenêtres? Je suis pas sûr. On peut pas comme ça mépriser les gens. Le problème, il est pas là. Le problème, il est pas vraiment là, tu vois. Parce que je suis bien persuadé que Daniel, là où il va en vacances ou là où il habite, il aimerait pas avoir un HLM, une barre de béton devant son nez. Hein? Non? Pas vous?
Les logements sociaux. Moi j'ai été bien heureuse qu'on m'en propose un il y a 11 ans, quand je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants. Moi, la prof de l'enseignement privé, bien pensant, bien sous tout rapport. Et il y a aussi des professeurs de l'enseignement qui ont besoin de HLM dans notre société. Moi j'y ai appris la solidarité. Mais quelle horreur! Que dis-je? Moi aussi je fais partie des indésirables. Rendez-vous compte, une femme seule avec 3 enfants, famille monoparentale. Je ne rentre pas dans le cadre des bien-pensants, comme dans cette belle commune de Saint-Maur et tant d'autres, Neuilly, etc. En tout cas, je ne fais pas partie des nantis, ça c'est sûr. En tant que prof, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est loin de faire partie des nantis. En tout cas, j'espère que mes enfants, eux, auront appris autre chose en vivant cette vie-là. Quand je les entends parler aujourd'hui, ça me rassure. J'ai l'impression qu'ils ont l'esprit tourné vers les autres. Bon, bah, c'est pas tout. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis moi, bah, je retourne à mes copies. Je vous embrasse tous. Au revoir.
Oui, je voulais apporter une petite précision quant au fonctionnement des pénalités dans le cadre de la des logements sociaux qui ne seraient pas produits dans le cadre des 20% nécessaires pour les communes de plus de 3500 habitants. Petite chose assez amusante dans certaines communautés d'agglomération ou de communautés de communes où il n'y a pas ce quota atteint, les pénalités sont versées par les communes et la communauté de communes ou la communauté d'agglomération rembourse gentiment pour tenir ses élus de la somme versée par les communes. Donc c'est une opération blanche. Et voilà, c'est la lessiveuse. C'est la lessiveuse de la petite politique et de la compromission des uns et des autres. Eh bien bravo. Eh bien continuez les gars.
Bonjour, Christian qui habite à La Réunion. Je viens d'écouter l'émission sur les problèmes de l'immobilier. Je suis moi-même agent immobilier. Je trouve un petit peu dommage le portrait qui a été tracé de l'agent immobilier qui serait forcément un escroc. C'est pas tout à fait le cas. Moi, je pratique mon métier. J'ai une certaine éthique. Je pense que je fais une passation de service qui est de faire en sorte que le vendeur fasse une bonne affaire, que l'acheteur fasse une bonne affaire. Encore ce matin, je participais à un débat pour essayer de comprendre l'augmentation des tarifs et tout faire pour que les prix soient plutôt à la baisse, pour que tout le monde puisse avoir un toit, aussi bien au niveau des locations, parce que je pense que le problème de location, c'est pas simplement comme ça a été pendant la campagne, le problème de la garantie, mais c'est le problème du paiement du loyer. C'est comment on fait aujourd'hui pour gagner trois fois le montant du loyer. Donc voilà. Ben c'est Christian à La Réunion qui écoute cette émission depuis très 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 longtemps. Allez, bon courage, super toutes les émissions. Heureusement qu'il est là, surtout sous l'ère de Sarkozy. Au revoir.
Voilà, quelques réactions suite à ces deux reportages sur la question du logement. Alors, tout ça devrait devenir caduque ou au moins changer considérablement. La France va changer et la question du logement va changer puisque nous allons tous devenir propriétaires. Pour ceux qui ne le seraient pas encore, eh bien, tous propriétaires. Alors, des déclarations qui évidemment ne peuvent pas déplaire puisque tous, chacun, nous aspirons à cela, à avoir un toit, un chez-soi, etc. Mais qu'en est-il vu du point de vue de la Fondation Abbé Pierre? Voilà des gens qui depuis bien longtemps se penchent sur la question du logement des Françaises et des Français, et on a eu l'idée avec Olivia Jesper de présenté à Patrick Doutreling, qui est délégué général de la Fondation Abbé Pierre, de lui faire entendre les diverses déclarations du nouveau président de la République, Nicolas Sarkozy, dans ce domaine, et de lui demander de réagir. Voilà ce que ça a donné.
Le choix entre être locataire et être propriétaire doit être garanti. Parce que la propriété, c'est la meilleure des protections contre la précarité.
Très globalement, c'est les classes moyennes supérieures et les classes aisées qui en profiteront, et très peu les classes modestes, et surtout pas les défavorisées.
C'est eux qui
sont menacés par la précarité.
Alors faux, vous répond Nicolas Sarkozy.
Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? C'est de pouvoir permettre, y compris aux revenus modestes et moyens, d'être propriétaires des logements.
Je pense qu'on oublie que la moitié des ménages en France vivent avec moins de 2000 euros par mois. Comment voulez-vous accéder à la propriété quand vous touchez moins de 2000 euros par mois? Donc, il faut bien qu'il y ait un secteur locatif et éventuellement qu'il soit aidé au niveau du paiement du loyer, parce que sinon, c'est les gens qui ne peuvent pas accéder à un logement.
Il y a deux types de locataires. Il y a ceux qui font le choix d'être locataire parce que c'est plus commode, moins contraignant, que l'on peut changer plus souvent le loyer qu'ils dépensent chaque mois et le prix de leur liberté. C'est leur droit. Et puis il y a ceux, hélas, immense majorité en réalité, qui sont locataires parce qu'ils ne peuvent pas devenir propriétaires. Et le loyer qu'ils dépensent chaque mois n'est pas le prix de leur liberté, mais le coût de leur infortune. Et c'est une grande injustice en réalité.
On estime qu'il y a 3 millions de mal logés, qu'il faut distinguer à peu près en 3 catégories. Il y a 1 million qui sont en logement surpeuplé, c'est-à-dire il faudrait qu'ils aient un logement plus grand parce qu'il leur manque au moins 2 pièces. 1 million de logements qui sont avec des notions d'inconfort ou d'insalubrité importante. Et puis 1 million de personnes qui sont sans domicile permanent, c'est-à-dire ils sont soit hébergés dans des structures, soit hébergés dans la famille, soit qui vivent en camping. Il y a plus de 100 000 personnes qui vivent en camping à l'année, une centaine de milliers qui sont SDF.
Permettre à chacun de se constituer un patrimoine en versant des loyers, j'ose le mot, c'est un progrès social.
L'indécence, c'est de faire croire que c'est pour tous. Aujourd'hui, c'est vous ne pouvez pas, avec le fruit de votre travail, accéder à la propriété pour environ entre la moitié et deux tiers des Français. C'est pas possible, c'est trop cher.
Voici qui donnerait les mêmes cartes à ceux qui sont riches et à ceux qui sont pauvres. Voici qui instille l'égalité des chances. Voilà une vraie mesure de justice.
13 mètres carrés, 530 euros. Idéal étudiant, très bon état, blablabla.
C'est déjà pris, je suis désolée.
15 mètres carrés, c'est pas mal, c'est un métro Louis Blanc. 410 euros, 11 mètres carrés, c'est possible de le faire un peu moins cher ou pas ?
Crise du
d'accord,
logement.
C'est pas une émotion, mais je vous rappelle. Au revoir.
Je propose que l'on puisse déduire tous les intérêts de son emprunt du revenu imposable pour accéder à la propriété de son logement.
Enlever les intérêts d'emprunt des impôts, il faut que ce soit très clair. C'est les classes moyennes, voire surtout moyennes supérieures. On prête qu'aux riches. Et c'est un petit peu ça, ce qui se passe depuis 4-5 ans sur les produits défiscalisés. Très clairement, pour relancer la construction en France, on s'est appuyé sur les classes supérieures pour qu'elles investissent dans le logement. Ce qui n'aurait pas été idiot si en contrepartie, il y avait des loyers accessibles. Or, le fait de libéraliser les loyers fait qu'on a donné aux riches des avantages fiscaux extrêmement importants sans aucune contrepartie sociale, ce qui ne permet absolument pas de résoudre la crise du logement que nous connaissons aujourd'hui.
Si l'on imagine que la politique ne peut rien faire dans un pays comme la France en 2007 pour empêcher les gens de mourir sur le trottoir, alors c'est pas la peine de faire de la politique.
La défiscalisation au bien est totalement inégalitaire. Les loyers qui vont sortir dans les mois à venir du Robien, ils sont tellement chers qu'il n'y a plus personne qui peut se l'offrir. Le ministre de l'époque, Robien, quand il a fait son produit, il a dit il faut aller chercher l'argent là où il est. S'il n'est plus dans les caisses de l'État, il est dans les classes supérieures. Il faut attirer leur argent pour investir dans le logement. Et inévitablement, ça a participé à la flambée des prix du foncier et du prix du logement neuf depuis 6 ans. Les prix ont doublé. Ben, parce que celui qui peut mettre le plus d'argent, c'est l'investisseur privé, parce que il va mettre de l'argent, mais il va faire supporter son emprunt par le locataire en mettant des loyers importants. Donc, voilà, on est sur un cycle pervers où effectivement tout contribue à faire monter les prix. Vous ajoutez à ça la baisse des taux d'intérêt qui sont historiquement très très bas, et vous avez toutes les conditions réunies pour que les prix de l'immobilier et du foncier s'envolent.
Empêcher les gens de mourir sur les trottoirs, qui ne s'engagerait auprès d'un candidat qui proposerait un tel combat, surtout au nom de la politique? Bien sûr que la politique, c'est ça, et doit servir à cela, à empêcher que les gens meurent sur les trottoirs. De belles phrases, de belles envolées qui, selon donc Patrick Doutreling de la Fondation Abbé Pierre, qui a publié récemment ce rapport, des belles déclarations qui ne sont pas forcément suivies des faits adaptés à la situation réelle telle que cette fondation l'étudie.
Voici qui donnerait les mêmes cartes à ceux qui sont riches et à ceux qui sont pauvres. Voici qui instille l'égalité des chances. Voilà une vraie mesure de justice.
Comment on met de l'équité? Il manque 800 000 logements en France. On est sur un marché de pénurie. Il faut rétablir l'équilibre. Et donc, il faut, dans les 5 ans qui viennent, construire 800 000 logements. Indiscutablement, ça fait 2 ans qu'on résorbe une partie du retard. Le problème, c'est que cette résorption se fait sur les classes sociales supérieures. La Fondation Abbé Pierre a analysé un petit peu la production de logements. En gros, tenez-vous bien, 24% de la production, elle s'adresse aux 2/3 des Français les plus modestes et 76% de cette production aux 1/3 de Français les plus aisés. Donc ça ne résout pour le moment en rien la crise. Par contre, au moment où on va devoir s'attaquer au noyau dur, c'est-à-dire les 500 000 logements qui manquent pour des gens qui gagnent autour de entre 1 et 3 SMIG par mois, je crains que les chiffres soient beaucoup plus faibles. Au lieu de s'appuyer seulement sur les opérateurs privés comme c'est fait depuis 2 ans et sur les investisseurs en particulier et sur les accès dans la propriété, il faut aussi que l'État s'investisse et construise au moins 120 000 logements sociaux par an.
Ma République, c'est celle du droit opposable au logement. Parce que si l'on pense que la politique ne peut rien faire pour résoudre en 10 ans la crise du logement en construisant les 700 000 logements qui manquent, alors il ne faut pas faire de politique.
Un droit au logement opposable qui ferait seulement gérer une liste d'attente, c'est-à-dire oui, vous y avez droit, maintenant vous vous mettez dans la file d'attente et dès qu'il y aura un logement, il sera pour vous, c'est nettement insuffisant. Il faut que parallèlement, on ait produit du logement pour que celui qui fera valoir ce droit, on lui ait fait une proposition de logement. La seule solution, la seule aujourd'hui, c'est de produire massivement du logement à loyer accessible, que ce soit dans le parc public ou dans le parc privé, peu importe. Ce qu'il faut, c'est dans les 5 ans à venir, qu'on ait rétabli ces 800 000 logements manquants, dont au moins 450 à 500 000 logements à loyer accessible. Le vrai droit au logement opposable, c'est pas dire oui, vous y avez droit, c'est de lui donner des clés à un moment donné.
Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle à propos de l'annonce parue dans le PAP. Je voulais savoir si c'était toujours en location.
Oui, c'est 30 mètres carrés.
30 mètres carrés, d'accord.
Non, il faut caution. Personne en plus qui se porte caution pour vous.
Un petit QI, un gros bunker.
C'est là ?
Nouvelle droite. Fouet d'un fouet.
Mon pays qu'est la France.
Je voudrais vous aider aussi, monsieur le président. Je suis fier d'être ici ce soir.
Mes chers amis, j'en ai vu dans ma carrière politique des victoires. Mais la victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Je serai le président de la République de tous les Français, sans exception.
Bravo, tu as gagné. Moi, j'ai tout perdu.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
Et puis, je veux dire à tous ces artistes qui ont eu le courage de me soutenir, je veux leur dire ils ont eu le courage de résister à la pensée unique. Je suis fier d'être votre ami.
On va s'aimer sous une étoile ou sous un oreiller.
Mon prénom Jean-Marie, facile à se rappeler. Marie comme la Vierge, ça vous fait marrer. Dès mon tout premier cri en pétant dans ma couche, les mots poil, bite et cul me sont venus à la bouche. On est tous fait pareil, mais faut faire attention. Si t'es pas vigilant, tu peux devenir très con.
Rien que du bleu, rien que du bleu.
On est toujours là.
C'est une chanson qui dit qu'on va mettre le paquet. Hein? Vous répétez après moi, c'est le refrain. Et à un moment, je dis et on va mettre le P, et on va mettre le P, et on va mettre le A,
et on va mettre le A.
On va mettre le Q.
On va mettre le Q.
Ah, c'est pas mal.
Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé.
Rien
que du bleu, rien que du bleu.
Oui, allô? Où se fait du yacht de Bonneville, là? Mais vous aimeriez tous avoir les mêmes moyens. Mais laissez-en pourvu qu'il y ait des patrons. Parce que où est-ce qu'on ira travailler? Vous êtes formidables. Merci!
Voilà, pas mal, hein, ce petit medley avec les nouveaux artistes qui ont eu plus ou moins nouveaux, mais qui ont eu le courage de résister à la pensée unique. Voilà, la France est en train de changer. Quelque chose qui ne change pas, c'est cette France qui râle, qui grogne et qui est mauvaise perdante et qui veut déjà la revanche alors qu'elle n'a pas encore avalé et encaisser sa défaite. En preuve, évidemment, cette escapade tout à fait légitime du président, du nouveau président, qui va se reposer quelques jours, quelques petites journées, un peu au soleil, chez un ami qui a un bateau, et aussitôt, ces revanchards sont là, en train de nous dire que, par exemple, je prends l'APIS, l'Association des chômeurs et précaires, c'est-à-dire des feignants, c'est-à-dire des paresseux, c'est-à-dire des parasites, c'est-à-dire des assistés. Et qu'est-ce qu'ils disent ces chômeurs? C'est que cette escapade représente 17 années de SMIC et 36 années de RMI. Voilà l'esprit de ces gens-là. Alors, ce bateau, on l'a vu, ce yacht super magnifique, appartient à Vincent Bolloré, enfin, au groupe Bolloré, ou Vincent Bolloré lui-même, tout ça reste un peu à préciser. Et on a justement voulu avoir des précisions avec Renaud Lambert pour savoir un petit peu comment, qui est cette famille Bolloré, ami de notre nouveau président, cette famille, ou plutôt ce groupe, ou plutôt monsieur Vincent Bolloré. Alors voilà la réponse de Geoffroy Guyens, qui est professeur à l'université de Liège et qui est auteur chez EPO en 2003 d'un ouvrage intitulé « Tout pouvoir confondu ».
Geoffroy Guyens, on sait que Nicolas Sarkozy ne laisse rien au hasard, notamment en termes de communication. Il nous a donc semblé nécessaire de mieux comprendre qui est Vincent Bolloré pour mieux comprendre son choix d'afficher son amitié avec lui.
Alors, Vincent Bolloré, c'est tout d'abord une des plus grandes personnalités du monde des affaires en France. Il est assez régulièrement cité dans le top 15 des premières fortunes privées de France. Et je dirais, à l'instar des Dassault et des Lagardère ou des Bouygues, il a des actifs à la fois dans le secteur des médias, la communication au sens plus large, et dans le secteur de l'industrie. Donc, industrie, haute finance et à la fois médias. Donc, un très bon exemple finalement du fonctionnement du capitalisme à la française autour d'une poignée d'un noyau dur de grandes familles qui, évidemment, à l'instar des Dassault, s'est appuyé tout au long de sa carrière sur l'État et qui bénéficie de plus haut soutien au niveau, évidemment, de l'appareil d'État, qu'il s'agisse de l'UDF, de l'UMP ou du Parti Socialiste. Donc voilà pour les liens politiques de Vincent Bolloré, qui est évidemment aussi étroitement lié au monde des affaires. C'est un ami personnel de Claude Bébéard d'AXA, de Jacques Friedman, de Didier Pinault-Valenciennes, d'Antoine Bernheim, le banquier de Lazare qui a aidé Bolloré pour ses différentes acquisitions, et qui siège lui-même chez LVMH, donc là c'est Bernard Arnault, chez PPR c'est François Pinault, chez AXA c'est un nouveau Bébéard, ou encore chez Dassault. Ce qui est intéressant de constater évidemment, c'est qu'il y a un mythe qui est très présent en France, mais ça vaut aussi pour d'autres pays, c'est le cas en Belgique que je connais bien également, cette idée que finalement l'économie est une économie tout à fait dérégulée, de pure concurrence, où les grands groupes industriels se font concurrence sur leurs marchés respectifs, et en réalité si l'on étudie la situation française et les entreprises du CAC 40, on se rend compte qu'un grand nombre de ceux qu'on appelle les grands administrateurs qui cumulent les mandats, finalement, sont étroitement liés les uns aux autres et, en effet, contrôlent un très très large nombre de mandats dans les plus grandes entreprises françaises. Il y a Claude Bébéard pour AXA, il y a Jacques Friedman ou Pebro pour la BNP, il y a Pinault-Valenciennes ou encore Jean Perrelevat, qui est passé par les cabinets socialistes avant d'être à la tête du Crédit Lyonnais. Ces personnalités, comme Vincent Bolloré, comme Antoine Bernheim, sont de ce petit nombre d'individus qui, en effet, sont considérés par la presse financière et économique comme ce qu'ils appellent les parrains du capitalisme français.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'en fait, Vincent Bolloré n'est pas tout à fait un représentant des classes populaires que Nicolas Sarkozy prétend incarner.
Ah, il ne l'est pas du tout, non, pas du tout. Il représente véritablement le grand patronat français, et il n'est pas non plus l'expression de ces quelques self-made men que l'on met souvent en scène dans les grands médias et qui sont, d'une certaine façon, pour un Sarkozy, représentatifs de la capacité de chaque Français moyen à s'élever dans la société et à devenir l'une des premières fortunes privé de France. En réalité, Vincent Bolloré est tout sauf un self-made man. Son père, Michel Bolloré, était en affaires et était un proche, un intime d'Edmond de Rothschild. Le père de Vincent Bolloré avait l'habitude d'accueillir chez lui Roger Frey, qui était un ancien ministre sous De Gaulle, également Pompidou. Bref, Vincent Bolloré, comme il l'explique et comme il l'a déjà expliqué dans de nombreuses interviews, a baigné très tôt dans un univers familial qui lui permettait de côtoyer les plus grandes fortunes de France et certains ministres de l'époque.
Alors, il fallait évidemment que nous posions la question pour ce jour exceptionnel à notre cher président Vincent Bolloré, président fondateur de la chaîne Direct 8, puisqu'on fête le deuxième anniversaire, on souffle notre deuxième bougie ce soir. Caroline parlait tout à l'heure de nouveaux talents. C'est vrai que c'est un concept qui vous est cher, les nouveaux talents, mais sur Direct 8, on voit aussi des gens qui n'ont plus rien à prouver à personne, comme Philippe Labro, comme Alain Minc, comme Alexandre Adler. Alors, comment vous positionnez la chaîne?
Alors, je crois que c'est l'essentiel des nouveaux talents, mais ça peut être aussi des gens plus anciens qui sont aussi des nouveaux talents. Je veux dire, Alain Minc, il passait pas à la télévision. Ça fait partie des amis du groupe. C'est un garçon qui a des idées sur tout. Il est extrêmement brillant. Et c'est intéressant de lui avoir dit, viens et va à l'antenne nous montrer, parler de politique, d'économie, de littérature. C'est un garçon assez complet. Donc je crois que c'est ce mélange de gens qui existent déjà depuis longtemps dans le milieu ou de nouveaux qui permet d'abord aux nouveaux d'avoir des anciens qui viennent leur raconter des histoires et leur apprendre des choses, mais aux anciens de puiser dans la jeunesse et dans les nouveaux talents, une évolution.
Pas de confusion dans l'esprit de nos téléspectateurs.
Pas du tout. C'est une chaîne généraliste.
Ni nos annonceurs, parce que ça y est, il y a de la pub maintenant.
Bien sûr, il y a de la pub. Ça, c'est la grande innovation. Vous savez qu'on a été la seule chaîne qui, la première année, a dit, écoutez, on veut pas de pub, parce qu'on se sent pas digne d'aller proposer à nos annonceurs de mettre de la pub. Nous sommes restés pratiquement 18 mois sans faire de pub sur la chaîne. Alors, seul un grand groupe français, encore contrôlé par une même famille depuis 185 ans, c'est vrai, peut se permettre de faire des aventures comme celle-là. Mais c'est bien, ça permet de tester, d'avoir du temps.
Cela fait 20 ans, en France, qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. On a vu fleurir de nombreuses chaînes payantes, mais pas de chaîne gratuite depuis la naissance de la 6.
Voilà, anniversaire de Direct 8. Vous avez compris qui a attendu si longtemps de devenir digne d'avoir des annonceurs. Alors donc, Vincent Bolloré, vous venez de l'entendre, vous voyez un petit peu cette vieille famille, 185 ans, etc. On a voulu avoir d'autres précisions auprès d'un autre chercheur, Michel Villette, qui, avec Catherine Villemot, est l'auteur aux éditions de La Découverte d'un portrait de l'homme d'affaires en prédateur, Michel Villette.
Alors Michel Villette, la raison pour laquelle on vous appelle, c'est pour essayer de mieux comprendre un petit peu qui est ce Vincent Bolloré dont on parle depuis quelques jours et comment s'est constituée son immense richesse puisqu'il fait partie des 15 personnes les plus riches de France, si je ne me trompe pas.
Au fond, on pourrait expliquer la réussite de Vincent Bolloré par l'innovation technologique. On pourrait l'expliquer par quand même l'habileté des deux frères qui ont su signer au bon moment les bons contrats avec l'aide de leurs conseillers, en particulier des gens de la banque Lazare, etc. Cependant, il me semble que dans le cas particulier, ces analyses doivent céder le pas à l'explication par le réseau de relations qui est complètement décisif une première fois pour rendre à Vincent Bolloré l'entreprise que sa famille a perdue et une seconde fois pour financer pendant des années des pertes. Donc finalement, quelle est la grande compétence de Bolloré? C'est le réseau de relations. Il n'est donc pas tout à fait étonnant qu'il ait invité sur son yacht il y a quelques jours Monsieur Sarkozy alors qu'il venait d'être élu président de la République. Au fond, il ne fait que continuer une grande tradition familiale qui a toujours marché depuis le 19e siècle.
Alors dans cette polémique, vous l'avez entendu, de son côté, Vincent Bolloré a déclaré n'avoir jamais eu de relation commerciale avec l'État français. Il l'a dit de son côté et le nouveau président de la République, lui aussi, de son côté, a précisé, Vincent Bolloré n'a jamais travaillé avec l'État français. Pourquoi ces précisions étaient-elles nécessaires? C'est parce qu'il y a ces satanés mauvais esprits de Français qui, à la suite de ce voyage, quelques heures de repos du nouveau président, se sont empressés de s'interroger sur les contreparties que Vincent Bolloré pourrait obtenir, par exemple, quelques marchés d'État. Voilà, d'où ces réponses. Vincent Bolloré n'a jamais travaillé avec l'État français, jamais eu de relation commerciale avec l'État français. C'est pas tout à fait le point de vue de quelqu'un comme Marc Chauvelot, secrétaire général du SNRTCGT.
Je souhaite pour l'économie française beaucoup de Vincent Bolloré, de Martin Bouygues, de Bernard Arnault, de François Pinault, c'est-à-dire des hommes qui sont capables d'investir pour créer des emplois. Vous savez, c'est pas une honte d'avoir travaillé dur, d'avoir créé un grand groupe, de donner de l'emploi.
Marc Chauvelot, vous êtes secrétaire général du Syndicat National des Régions de Télévision, CGT, qui vient de publier un communiqué contredisant les propos de Nicolas Sarkozy, selon lequel le groupe Bolloré n'a pas de lien avec l'État.
Vincent Bolloré est un des grands industriels français. Il n'a jamais travaillé avec l'État. Il fait honneur à l'économie française.
Pour vous, le fait que Vincent Bolloré et que le groupe de Vincent Bolloré soit présent au capital de la SFP le lie directement avec l'État. Alors, il nous a semblé utile de mieux comprendre les raisons qui auraient pu amener Nicolas Sarkozy à commettre cette erreur. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce que la SFP ?
La SFP, c'est une entreprise privée qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Euromédia, dont Vincent Bolloré est actionnaire à 40%, je crois, avec la famille Barry. C'est une entreprise qui a été publique jusqu'en 2001 et qui a été rachetée par ses investisseurs. Alors, ce qu'il faut noter et qui est quand même intéressant, c'est que tant qu'elle était publique, la SFP marchait mal. Enfin, c'est ce qu'on disait. Elle perdait de l'argent, elle coûtait beaucoup trop cher, il y avait trop de personnel, trop de masse salariale, etc. Et il a suffi que Vincent Bolloré arrive avec la famille Barry pour racheter l'entreprise. Je rappelle quand même qu'elle a été vendue à peu près au 10e ou au 15e de sa valeur au moment de sa privatisation. Donc c'était une bonne affaire. Pour que tout à coup, comme par enchantement, tout se mette à aller beaucoup mieux. Donc il y a eu de l'argent pour investir, on a racheté d'autres entreprises, et on est devenu un groupe florissant qui est aujourd'hui en situation de quasi-monopole sur les plateaux en France. Quand on veut travailler et faire des émissions de télévision, variétés, jeux de divertissement, on est très souvent contraint de passer par le groupe Euromédia SFP qui dispose d'une série de plateaux sur lesquels sont faits des grandes émissions emblématiques comme les émissions de Sébastien. Mais bon, la SFP fait aussi la plupart des émissions du service public comme des débats télévisés, dont un qui a eu un grand succès ces derniers temps, qui est celui de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy. Et donc, quand M. Sarkozy déclare que M. Bolloré ne doit rien à l'État français, c'est pas tout à fait vrai. C'est peut-être vrai sur le reste de ses activités, mais en tout cas, il y a une partie de ses activités à travers une entreprise qui s'appelle la SFP, qui a été rachetée à prix cassé à l'État français en 2001, avec un gouvernement socialiste, qui dépend bien de la commande des chaînes publiques, c'est-à-dire de la redevance que payent les citoyens. Je crois que c'est 25% du chiffre d'affaires de Euromédia SFP qui est assuré par les commandes des chaînes publiques.
Je veux lancer un appel à tous les Africains, un appel fraternel, pour dire à l'Afrique que nous voulons l'aider, aider l'Afrique à vaincre la maladie, à vaincre la famine, à vaincre la pauvreté, à vivre en paix. Je veux leur dire que nous allons décider ensemble d'une politique d'immigration maîtrisée et d'une politique de développement ambitieuse.
Comment ne pas applaudir une telle déclaration formidable? Je suis sûr que ces mots sont allés au cœur même de nos amis africains. Je pense aux Maliens, par exemple, aux amis maliens. Je pense à notre ami Aminata Traoré, qui a dû se réjouir jusqu'aux larmes en entendant de telles déclarations. Elle qui est tellement attachée, évidemment, au développement de ses compatriotes et aux souffrances de ceux qui essayent de fuir la misère de leur pays. pays. Mais voilà, là aussi, face à une aussi belle déclaration, on trouve ces mauvais perdants, ces revanchards, tels que William Bourdon. Par exemple, William Bourdon, qui est avocat au barreau de Paris, qui connaît plutôt bien l'Afrique, c'est sa réputation, et qui apporte, suite à une telle déclaration, quelques précisions.
Maître Bourdon, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous connaissez bien l'Afrique, l'Afrique à laquelle Nicolas Sarkozy a lancé un appel fraternel dimanche dernier à la suite de son élection, et l'Afrique que connaît bien aussi le milliardaire Vincent Bolloré, dans le yacht duquel Nicolas Sarkozy se repose en ce moment.
Alors d'abord, il faut se souvenir que le cœur du métier de Vincent Bolloré, ce sont des activités très importantes en Afrique depuis des années et des années. Donc même si aujourd'hui, le groupe Bolloré rip progressivement vers des activités telles que les médias, l'essentiel de sa puissance économique traditionnelle, c'est évidemment l'Afrique. Et ça veut dire évidemment un tissage extrêmement étroit de liens entre ce qu'on appelle les acteurs de la France-Afrique, c'est-à-dire cette zone trouble où se mêlent des politiques, des parapolitiques, des financiers locaux, hexagonaux. Quand on exploite des ressources, on ne peut pas le faire toujours dans des pays qui sont le panthéon de la démocratie. Donc ça, on peut le comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que la caractéristique des réseaux de France-Afrique, c'est une imbrication entre le privé et le public. Donc de ce point de vue, ce yacht, cet avion, ne peuvent que renvoyer un message trouble, notamment à destination de l'Afrique, parce que pour les Africains, cette imbrication parfois incestueuse entre le privé et le public, elle est au cœur d'un système de prédation, elle est au cœur parfois d'un système de corruption, de faveurs réciproques, et le moins qu'on puisse dire est que de ce point de vue, l'État impartial auquel semble aspirer de ses voeux Nicolas Sarkozy est tombé à l'eau et s'est noyé dans les eaux maltaises.
Alors voilà les précisions de William Bourdon, avocat au barreau de Paris. Un autre point soulevé par cette escapade maltaise, comme dit notre avocat, c'est la référence permanente et persistante au cours de cette campagne à Léon Blum. Et Vincent Bolloré a fait savoir que cette tradition, la tradition de sa famille depuis 185 ans, disait-il tout à l'heure, eh bien c'est l'hospitalité. C'est l'hospitalité, et ainsi sa famille avait reçu, dit-il, Léon Blum plusieurs semaines dans le manoir familial au retour de la captivité de Léon Blum. Le dirigeant socialiste avait été déporté à Buchenwald. Alors, des précisions sur ce point. On a entendu la petite nièce de Léon Blum s'insurger, Christine Blum, s'insurger contre ces déclarations et cette instrumentalisation. Voici les réactions d'Antoine Malamud, qui est l'arrière-petit-fils de Léon Blum.
Antoine Malamud, vous êtes l'arrière-petit-fils de Léon Blum, une personnalité dont on parle beaucoup en France en ce moment, et l'on parle à nouveau de lui autour de l'affaire du yacht de Vincent Bolloré. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler qui était Léon Blum ?
Eh bien, Léon Blum a été le dirigeant du Parti Socialiste français sous ses diverses appellations depuis 1920 jusqu'à 1947. C'est lui qui a été le premier ministre du gouvernement de Front Populaire, qui a instauré les lois sociales sur les 40 heures, les congés payés, les conventions collectives. C'est lui aussi qui a représenté l'honneur de la France lors du procès de Rion, quand le régime de Vichy voulait imputer au gouvernement précédent toutes les tares de la défaite. Et devant l'échec de ce procès, il a été livré aux Allemands et déporté à Buchenwald. C'est enfin Léon Blum qui a très âgé, après la guerre, repris des responsabilités politiques dans les gouvernements de reconstruction nationale en 46, puis très brièvement en 47, et a assuré une sorte de magistère intellectuel sur la refondation du Parti Socialiste.
Alors, aujourd'hui, on nous parle de Léon Blum, alors que Vincent Bolloré explique qu'accueillir des personnalités politiques, c'est commun dans la famille Bolloré. Il explique que Léon Blum aurait été reçu par la famille Bolloré à son retour de Buchenwald en 1945. Et avec ça, vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Eh bien, moi, je suis très reconnaissant à Vincent Bolloré d'avoir publié aujourd'hui dans la presse les deux documents qu'il a fait paraître, c'est-à-dire une photo de Léon Blum et de son grand-père sur le perron de la demeure de la famille Bolloré, et un texte de dédicace de Léon Blum. Ces deux documents datant de 1947. Ce faisant, il reconnaît l'erreur qu'il a commise en imputant cette visite en 1945. En effet, c'est tout à fait différent dans mon esprit de recevoir Léon Blum de retour de captivité en 1945, alors que celui-ci ne dispose plus de logements ni d'appartements qui ont été dévastés par les Allemands. Et c'est donc très différent de l'accueillir 2 ans plus tard, alors qu'il n'exerce plus de responsabilité politique et qu'il se déplace dans le cadre de ses déplacements privés. Donc, de ce point de vue-là, la polémique factuelle est totalement close. Aujourd'hui, l'épisode du voyage de Nicolas Sarkozy sur le yacht d'un grand patron et l'utilisation ensuite du nom de Léon Blum qui en a été faite pour la justifier me semble un peu indécente. Parce que tout de même, Léon Blum est un homme d'État. Oui, un homme d'État socialiste avant tout, et que le programme et l'engagement politique de Léon Blum tout au long de sa vie politique a été à l'opposé de ce que défend actuellement Nicolas Sarkozy et les responsables du patronat français. On assiste une fois de plus dans cette histoire à la tentative de dire que tous les hommes politiques de droite ou de gauche ont les mêmes comportements, et bénéficient tous des mêmes largesses de la part des industriels, et qu'ainsi la gauche serait malvenue de protester.
Antoine Malamud, je vous remercie.
Merci à vous.
Mes chers compatriotes, j'éprouve depuis mon plus jeune âge la fierté indicible d'appartenir à une grande, à une vieille, à une belle nation, la France.
Et là, sur les toits du village,
rien que du bleu, rien que du bleu, pour voir un peu plus loin que le bout de notre chemin.
Oh putain, je suis en colère!
Parlez de la France. La Bretagne, la Provence, les forêts, les cailloux. Pour parler de la France, vous avez dans la voix une chanson d'innocence qui dit votez pour moi.
Hier, je suis allé en boîte, ils avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage.
Vive le roi!
Rien que du bleu, rien que du bleu.
En Nicolas Sarkozy, on va s'investir sur une chanson maintenant. Vous l'avez choisie. C'est une très très belle chanson qui a été interprétée par Michel Sardou. Et c'est encore le résultat d'une bonne équipe. C'est Jacques Revaux et Didier Barbelivien.
Oh, c'est une magnifique chanson. J'ai dit d'ailleurs à Michel Sardou que je regrettais que sur scène, il ne la chante pas suffisamment. Peut-être parce qu'elle est difficile.
Comme un soleil couchant de Méditerranée, rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée, rouge, comme le sang de Rimbaud coulant sur un cahier, rouge, comme la mer qui recouvre le désert de Judée.
Voilà, merci à tous, merci à Patrick Doutreling de la Fondation Abbé Pierre, Antoine Malamud, Marc Chauvelot, secrétaire général du SNRT-CGT, et à maître William Bourdon. Je vous rappelle que lundi, à partir de lundi, nous commençons une série avec l'intellectuel américain Noam Chomsky, ça s'appelle Noam Chomsky et compagnie. Chomsky est l'intellectuel le plus connu au monde et sans doute le moins connu en France, donc on l'entendra tout au cours de cette semaines avec d'autres chercheurs et activistes américains ou québécois tels que Normand Baillargeon, Michael Albert ou Jean Bricmont, un chercheur belge, et puis d'autres invités autour de ce grand chercheur et grand intellectuel engagé qu'est Noam Chomsky. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. C'est Eric Morin et Benoît Massy qui étaient à la technique aujourd'hui. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission. Modeste et assez génial, il faut bien le dire. Assisté de Charlotte Perry. C'est Renaud Lambert qui a fait une partie des recherches et reportage sur le logement était signé Olivia Gesbert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui attend vos messages tout au cours du week-end au 01 56 40 37 37.